rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 11 décembre 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Au Niger, l'opposant Ahmad Amadou dit prendre acte du rejet de sa candidature à la présidentielle et promet d'œuvrer pour la défaite du parti au pouvoir. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, désormais seul aux commandes après la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, favorable à Joseph Kabila. Le Front Polisario promet de poursuivre le combat pour l'indépendance du Sahara occidental au lendemain de la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur ce territoire. Et puis les États-Unis appellent au retrait immédiat des troupes érythréennes de la région du Tigré où le gouvernement éthiopien mène des opérations militaires. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle du 27 décembre prochain bat son plein. 30 candidats sont en lice pour le fauteuil. Le chef de file de l'opposition, Ahmad Amadou, a lui été écarté de la course. Ce matin, il a réagi pour la première fois face à la presse. On fait le point avec notre correspondant, Abdulrazak Idrissa.
Merci, je vous remercie, mesdames et messieurs, les journalistes.
C'est sa première sortie après l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Ahmad Amadou prend acte mais dit que cela ne signifie nullement pas son exclusion et celle de sa formation politique du processus électoral en cours.
Que Tareya ne croit pas que les jeux sont faits et qu'on va leur ouvrir un boulevard dans lequel allègrement ils vont conduire à la présidence de la République leur faux candidat. Cela n'est pas possible. Issoufou Mahamadou lui-même n'a pas pu faire un coup KO. Ce n'est pas un avatar de Issoufou Mahamadou qui pourra faire un coup KO. Et s'il y a un KO, c'est ceux qui ont prémédité le KO qui seront KO. Ça, c'est la réalité de ce qui va se passer. Donc, je demande à nos militants de ne pas déceler les selles de leurs chevaux de guerre. Le moment venu, nous dirons pour qui voter.
Ce dimanche 13 décembre, déjà, ce sera les élections locales pour les conseillers municipaux. Le premier tour de la présidentielle couplée aux législatives sont prévues, elles, le 27 décembre prochain. La campagne électorale bat timidement son plein.
Ça y est ?
Oui, c'est bon.
Ok, merci beaucoup.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La procureure générale de la Cour pénale internationale a indiqué ce vendredi avoir suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête sur les violences au Nigeria commises à la fois par les groupes djihadistes et les forces de sécurité. Cette annonce intervient alors que la violence continue de faire des ravages dans le nord-est du Nigeria où au moins 76 travailleurs agricoles ont été massacrés voici deux semaines par le groupe djihadiste Boko Haram. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a remporté jeudi une grande victoire contre la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, a été destituée. Les précisions de John Lyndon.
La chute de Mme Jeanine Mabunda et de son bureau est l'aboutissement d'une crise au sommet de l'État. Le président a annoncé dimanche la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur depuis janvier 2019. Félix Tshisekedi avait dit qu'il voulait sa propre majorité. Jeudi, l'Assemblée a donc voté pour la destitution de sa présidente pro-Kabila avec 281 voix contre 200. L'Union sacrée de la nation vient de marquer ses premiers points, s'est félicité le porte-parole du président Kasongo Mwema Yamba Yamba. Le départ de ce bureau, c'est la fin du règne de Kabila, a ajouté Crispin Bindoulé, un député du camp Tshisekedi. Le Front commun pour le Congo revendiquait une majorité avec plus de 300 députés sur 500. Courage, camarades, on ne gagne pas à tous les coups. Redressons nos têtes rapidement, a réagi l'une des composantes du FCC, le PPRD, le parti de M. Kabila. M. Kabila, qui n'a rien dit jusqu'à présent, dispose encore d'une vaste majorité au Sénat, dont il est lui-même membre. Il a reçu aujourd'hui un accueil triomphal à Kolwezi lors de sa première sortie depuis qu'il a officiellement quitté le pouvoir.
Les indépendantistes sahraouis du Front Polisario ont promis de poursuivre les combats au lendemain de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le point avec Eric Manerekiza.
Les combats se poursuivront jusqu'au retrait total des troupes marocaines d'occupation, a affirmé Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, proclamé en 1976 par le mouvement indépendantiste du Polisario. La décision américaine est nulle et non avenue, a répété M. Ould Salek en soulignant que la communauté internationale ne reconnaît et ne reconnaîtra aucune souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental appartient exclusivement au peuple sahraoui, a-t-il insisté. Dimanche, lors du dernier sommet de l'Union africaine dont la République arabe sahraoui démocratique est membre fondatrice, la question du Sahara occidental a été réinscrite à l'agenda du Conseil de paix et de sécurité. Le Sahara occidental est toujours considéré comme un territoire non autonome par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif. La dispute oppose depuis plusieurs décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU, tandis que le Maroc, qui contrôle plus des deux tiers de son vaste territoire désertique, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Les négociations sous l'égide de l'ONU impliquant le Maroc et le Polisario avec l'Algérie et la Mauritanie sont suspendues depuis des mois.
La France a salué vendredi la reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, estimant que le conflit au Sahara occidental n'avait que trop duré. Le conflit au Sahara occidental fait peser un risque permanent de tension et qu'une issue juste et durable devait être trouvée, a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Nous reviendrons sur le Sahara occidental en partie magazine. Les États-Unis jugent crédibles et graves les informations sur la présence de troupes érythréennes au Tigré, région d'Éthiopie où un conflit oppose les dirigeants locaux au gouvernement d'Addis Abeba. Washington demande un retrait immédiat de ses troupes. L'ambassadeur éthiopien aux États-Unis, Fistoum Arega, a dénoncé, je cite, un mensonge sur son compte Twitter. Un porte-parole de la diplomatie américaine a aussi relevé des informations faisant état de violations des droits humains dans la région et a appelé toutes les parties au respect du droit international humanitaire, réclamant une enquête indépendante.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait 1,580 000 morts et 69,5 millions de cas dans le monde. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 292 000 morts. Jeudi, un comité consultatif de l'Agence américaine des médicaments a recommandé d'autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech. Les explications de Nathalie Barche.
Le ministre américain de la Santé, Alex Azar, a estimé ce vendredi que le vaccin Pfizer-BioNTech pourrait être administré dès lundi après l'approbation des autorités sanitaires. Les groupes prioritaires sont les résidents de maisons de retraite et les professionnels de la santé. Le reste de la population américaine devra attendre peut-être jusqu'en avril pour être vacciné. Le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn et l'Arabie Saoudite ont déjà autorisé la mise sur le marché de ce vaccin. Le laboratoire français Sanofi a annoncé que celui qu'il développe avec GSK ne sera pas prêt avant fin 2021 car les essais n'ont pas été efficaces sur les personnes âgées. Le laboratoire britannique AstraZeneca et la Russie ont annoncé des essais cliniques combinant leurs deux vaccins. Plusieurs gouvernements ont appelé les populations à redoubler de vigilance à l'approche des fêtes de fin d'année dans le souci de ne pas aggraver la situation.
Le Congrès américain a adopté ce vendredi un budget de 740 milliards et demi de dollars pour la défense des États-Unis en 2021, bravant la menace d'un veto de Donald Trump. Ce texte, qui avait déjà été approuvé mardi par la Chambre des représentants à une écrasante majorité, a obtenu plus de deux tiers des votes du Sénat. Les deux votes ont permis d'atteindre la supermajorité des voix requises dans les deux chambres pour outrepasser un éventuel veto présidentiel. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé que l'échec des discussions avec l'Union européenne sur un accord post-Brexit était très probable. Nous continuons d'espérer, a souligné le Premier ministre, rappelant que les discussions avec l'Union européenne continuaient. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est montrée tout aussi pessimiste en déclarant vendredi aux dirigeants des 27 réunis en sommet que les espoirs d'un accord avec Londres sur la future relation commerciale était faible. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par John Linden.
Les députés français donnent le feu vert au projet de loi sur la réforme du franc CFA, la monnaie commune, à 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Ce projet de loi a été adopté le 20 mai 2020 par le Conseil des ministres du gouvernement français. Le franc CFA va devenir éco en maintenant une parité fixe avec l'euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves d'échange des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. La RDC projette un marché des assurances de 800 millions de dollars dans 2 ou 3 ans si toutes les entreprises dans le pays s'assurent conformément à la loi. C'est ce qu'affirme Alain Kanyenda, directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. C'était lors de l'ouverture de la 6e édition du salon d'affaires Makuntano qui se tient en ce moment à Kinshasa. Le français Sanofi annonce un retard dans le programme de développement de son vaccin contre le COVID-19 développé avec le britannique GSK en raison d'une réponse immunitaire insuffisante chez les personnes âgées. Les résultats de l'étude ne sont pas à la hauteur de nos espérances, a reconnu le président de GSK Vaccins, ce qui constitue un revers majeur pour le groupe pharmaceutique dans la course mondiale au vaccin contre le nouveau coronavirus.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni hier et a décidé de proposer à l'Assemblée générale de la CAF d'accorder le statut de président d'honneur de la CAF à Issa Hayatou, ancien président de l'institution, pour l'ensemble de son œuvre, nous dit le site de l'instance africaine du football. D'après le communiqué de la CAF, le Camerounais a présidé aux destinées de l'institution durant 30 ans, de 1987 à 2017, et cette distinction salue son action au service du développement du football africain. Le comité dit aussi avoir pris connaissance du rapport de la dernière visite d'inspection des infrastructures, stades, terrains d'entraînement et hôtels qui s'est déroulé en octobre 2020 au Cameroun. Trois villes hôtes de la compétition, Yaoundé, Douala et Limbé, ont reçu la visite de la délégation de la CAF. Le comité dit noter avec satisfaction que le pays hôte est prêt à accueillir le CHAN en janvier 2021. 4 Africains sont en lice pour figurer dans le 11 type de l'année. Ils apparaissent sur la liste des 55 joueurs publiés par la FIFA et la FIFPro. Entendez le syndicat mondial des joueurs. Il s'agit de l'Égyptien Mohamed Salah et du Sénégalais Sadio Mané de Liverpool, de l'autre Sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly et de l'attaquant gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Le 11 type sera dévoilé durant la cérémonie FIFA des Best le 17 décembre. Ici aux États-Unis, Seattle se rendra sur le terrain du Crew de Columbus demain samedi pour tenter de remporter un deuxième titre de champion nord-américain de football MLS d'affilée contre une équipe dont le seul sacre en MLS remonte à 2008. L'international ghanéen Jonathan Mensah, plié de la robuste défense du Crew, affirme qu'une victoire signifierait tout pour ce club, pour cette ville et pour les supporters. Outre son triomphe en 2008, le Crew s'est incliné en finale en 2015. De son côté, Seattle battu en finale en 2017 à l'occasion de glaner un troisième titre après ceux de 2016 et 2019. Cela lui permettrait de se placer seul au palmarès derrière le Los Angeles Galaxy, titré à 5 reprises, et le DC United, sacré 4 fois. Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en basketball, LeBron James et Anthony Davis, les 2 stars des Los Angeles Lakers, ne participeront pas ce soir au match amical contre les Clippers, l'autre équipe de la ville. Hier, alors que les champions en titre se préparaient au premier de leurs 4 matchs de pré-saison avant la reprise de la NBA le 22 décembre, l'entraîneur Frank Vogel a déclaré aux journalistes présents que ni James ni Davis ne joueraient aujourd'hui. Un deuxième match de préparation opposera Clippers et Lakers le 13 décembre avant qu'ils ne débutent la saison officielle par un autre derby 9 jours plus tard.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La déchéance du bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est peut-être synonyme du basculement de la majorité. Le président Félix Tshisekedi a annoncé dimanche dernier qu'il allait nommer un informateur pour identifier formellement la nouvelle majorité. Pour une analyse, Eddie Isango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi.
La décision du bureau est un désaveu qui peut être soit de la gouvernance, de la façon dont le bureau a géré, mais ceci est interprété comme une adhésion à l'appel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a besoin des réformes que le Parlement dans sa configuration actuelle ne pouvait pas lui donner. Et donc pour ça, il a dit tout haut, que ce soit le 23 octobre ou le 6 décembre, il est revenu plus de fois pour insister que les réformes devaient se faire. Donc je considère que c'est d'abord l'aveu, ensuite l'adhésion. Alors, est-ce que la majorité a basculé? Il dit, le président a promis de désigner et de nommer un informateur pour consacrer la naissance de cette nouvelle dynamique et de cette nouvelle majorité. Ça sera fait dans les jours qui viennent. Il est prévu, aujourd'hui, un bureau provisoire qui a des choses à main. On va installer rapidement le bureau définitif. Eh bien, on passera aux choses assez sérieuses. L'informateur sera nommé, la majorité sera identifiée et plus tard, un formateur ou bien un premier ministre sera nommé pour recomposer un tout nouveau gouvernement avec les gens qui auront adhéré. Si aujourd'hui le FCC n'a pas adhéré à l'Union Sacrée, vous comprenez aisément que le FCC est obligé de faire l'opposition. Parce que c'est tant dans la disposition telle qu'il n'a pas pris part aux consultations ni à la formation de cette nouvelle Union Sacrée en gestation.
Peut-on dire que le vent est passé? Il y avait des fortes tensions et des craintes que le pays bascule dans une crise ou des violences.
Oui, il y a eu de fortes tensions. Les princes d'église ainsi que les sages du monde ont parlé et il y a eu certes quelques cas. Il y a eu des blessés au palais du peuple. Moi, je crois que l'orage est passé et je demeure optimiste. Je considère désormais que la roue de l'histoire tourne. Elle va tourner tellement vite que des changements souhaités par le président de la République, attendus par l'ensemble des Congolais, ces changements peuvent finalement progressivement venir. Changement de paradigme en termes de politique publique, changement de mode de gouvernance et de vision. Le vent a tellement sonné, il ne faut plus continuer à titiller sur ce qu'il faut faire. Il faut absolument que les gens acceptent d'accompagner ces changements. Parce que résister et pousser peut-être les gens à la violence, ça serait se mettre à porte-à-faux par rapport aux lois de la République et même aux recommandations de la communauté internationale. Antonio Guterres avait parlé, étant d'autres dirigeants dont les ambassades ici sur place ont parlé, les avertissements qui ont été donnés ont suffi pour calmer les jeux.
Il y avait beaucoup de craintes, surtout que il y avait en fait beaucoup de supputations parce que on ne laissait pas l'ancien président voyager. Maintenant qu'il a voyagé, pensez-vous qu'il y ait quelque chose à craindre?
Dans le cas d'espèce, il n'est pas possible de prêter à l'ancien président de telles intentions, pour autant qu'il n'a posé aucun acte qui soit de nature à nuire aux intérêts de la victoire de la République. C'est un patriote, c'est un nationaliste. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Maintenant, il y a eu 2 ans de grâce. Sur 20, il doit en avoir tiré une sagesse qui ne peut pas l'amener à poser des actes. Mais s'il y arrivait, moi je crois que les dispositifs tels qu'elles ont toujours été prises dans un pays démocratique doivent être actionnés pour qu'on ramène la paix.
C'était le journaliste Marcel Ngoyi, joint à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le président américain Donald Trump a signé hier une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. En même temps, il a annoncé que Rabat s'était engagé à normaliser ses relations avec Israël. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait savoir que sa position était inchangée sur le Sahara occidental. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'analyste et spécialiste de l'Union africaine, Ibrahim Khan.
Il y a 2 aspects à cette décision. L'aspect des relations entre les États-Unis et le Maroc et un aspect des relations entre les États-Unis et l'Union africaine. S'agissant du Maroc, c'est bien entendu quelque chose de bienvenu pour le roi qui cherche depuis très longtemps à faire cette question du Sahara occidental simplement une affaire marocaine, éviter son internationalisation, et le fait qu'un pays ami du Maroc puisse reconnaître la souveraineté du Maroc sur ce territoire, ça peut conforter le Maroc dans sa position. Mais au-delà, il faut qu'on ait à l'esprit que cette question du Sahara occidental est une question d'abord pendante au niveau des Nations Unies, parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui gère toujours la situation au Sahara occidental. Mais plus sérieusement, le Maroc a accepté de retourner à l'Union africaine en acceptant qu'un des membres de cette organisation soit la République arabe sahraoui. Donc, quelle va être la réaction de l'Union africaine en particulier face à ce qui peut apparaître comme vraiment une intervention des États-Unis directement dans les affaires africaines et qui ne les gouvernements américains d'avant ont toujours évité.
L'Union africaine n'a pas encore réagi plus de 24 heures après. Est-ce pour vous étrange?
L'Union prend le temps de la réflexion pour voir quel angle utiliser pour agir. Je suis sûr et certain que la semaine prochaine, on aura une réaction de l'Union africaine. Mais plus certain encore que lors du sommet de janvier de l'année prochaine, février, parce que cette fois-ci, ça se passe au mois de février, on aura une réponse plus élaborée des États africains face à cette situation. Et je pense que cette décision américaine peut aussi creuser un fossé entre le Maroc et l'Union africaine en tant qu'organisation. Et certains États africains, parmi les plus puissants, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, qui ont toujours soutenu la cause sahraoui et qui défendent bec et ongles l'indépendance de ce territoire.
Il y a aussi l'Algérie.
Oui, mais l'Algérie, c'est un peu plus compliqué pour les États-Unis parce que l'Algérie est aussi un partenaire des États-Unis, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Malgré les problèmes que l'Algérie connaît au niveau interne, on voit mal ce pays décider de renoncer au soutien qu'il apporte Polisario. Si on avait une résolution des Nations Unies ou bien une décision d'une structure importante au niveau international, là, on aurait pu dire que ça pose problème et que ça peut avoir un impact. Ce n'est pas de nature à changer le fonctionnement de l'Union africaine. Vous savez, il y a même eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a précisé les positions que les États européens doivent adopter par rapport à la question du Sahara occidental. Donc pour moi, c'est juste une position américaine.
C'était Ibrahim Kane, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le Conseil consultatif du gouvernement américain a recommandé hier jeudi l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer Biotech contre le nouveau coronavirus. Cela signifie que les Américains pourraient commencer à se faire vacciner dès ce week-end. Ce mercredi, le pays a enregistré plus de 3100 décès en une seule journée, un pic depuis le début de la pandémie. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA, la Maison-Blanche, fait le point. Et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Vous préparez votre seringue.
En prévision de l'arrivée de vaccins COVID-19, les hôpitaux forment le personnel à les administrer. Jeudi, le conseil consultatif de l'Agence américaine pour la nourriture et les médicaments, la puissante FDA, a donné son feu vert pour l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer-BioNTech après avoir entendu un large éventail de préoccupations. Doran Fink dirige la division des applications des vaccins et les produits connexes à la FDA.
Le public américain exige et mérite un examen rigoureux, complet et indépendant des données.
La FDA n'est pas tenue de suivre la recommandation du Conseil consultatif, mais devrait le faire. Cela signifie que le vaccin pourrait être administré de ce week-end. Le président Donald Trump s'en réjouit. Il a organisé un sommet sur les vaccins plus tôt cette semaine, sans inviter les membres de l'équipe du président élu Joe Biden. Les équipes de transition n'ont commencé à communiquer que récemment, car M. Trump continue de nier avoir perdu les élections.
Le travail qui a été fait est incroyable. Ça sera plus incroyable pour la prochaine administration. Espérons que la prochaine administration sera l'administration Trump.
Le même jour, Joe Biden a présenté son équipe de santé et détaillé son plan de lutte contre le coronavirus après sa prise de fonction en janvier. Il a demandé aux Américains de porter un masque pendant les 100 premiers jours de son administration. Le président élu a promis de rouvrir les écoles et d'administrer des vaccins.
Au moins 100 millions de vaccins COVID seront injectés dans les bras des Américains au cours des 100 premiers jours. 100 millions d'injections, les 100 premiers jours.
Mercredi, les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de morts au quotidien, avec plus de 3100 décès en une seule journée. Le pays compte maintenant plus de 288 000 décès et plus de 15 millions de cas. Ces chiffres peuvent encore augmenter d'ici le 20 janvier, date de l'investiture de Biden. Anand Parekh est le conseiller médical en chef au Centre de politique bipartisane.
Se concentrer sur les bons messages de communication, s'assurer que les professionnels de la santé sont équipés de ce dont ils ont besoin, s'assurer que la distribution des vaccins soit continue, tout cela a commencé dès le premier jour.
Les premiers à être vaccinés sont les dizaines de millions de travailleurs de la santé, suivis par le personnel et les résidents des maisons de retraite, les travailleurs essentiels, les personnes souffrant déjà des problèmes de santé avec les Américains plus âgés. Le reste de la population devra attendre avril ou mai 2021.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et à la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagno et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La norme technologique de cinquième génération pour le réseau cellulaire à large bande, ou 5G, qui a commencé à être déployée dans le monde entier l'an dernier, a une bande passante beaucoup plus grande que la 4G précédente. Cela signifie que la 5G peut servir les téléphones cellulaires et les connexions à l'Internet, fournissant de nouvelles applications dans l'Internet et des objets et de la communication de machine à machine. Toutefois, l'augmentation du flux des données permise par la plus grande bande passante de la 5G signifie également une plus grande exposition aux attaques. Alors que des technologies comme la 5G créent d'énormes opportunités de croissance, elles augmentent également le risque posé par les pays et les entreprises mal intentionnées, en particulier ceux qui sont redevables aux gouvernements autoritaires, comme le Parti communiste chinois, a déclaré le sous-secrétaire d'État à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement Keith Krash lors du Forum des entreprises indo-pacifiques. La question est, à qui pouvons-nous faire confiance avec nos précieuses informations personnelles, les données les plus sensibles de nos clients et notre propriété intellectuelle la plus précieuse, a déclaré le sous-secrétaire Krash. Ce n'est certainement pas une entreprise comme Huawei, épine dorsale de la surveillance d'État du Parti communiste chinois, et certainement pas un pays dont une loi nationale de renseignement dit que n'importe quelle compagnie chinoise, propriété d'État ou autre, ou n'importe quel citoyen chinois est tenu de remettre sur demande n'importe quelle information technologique exclusive, propriété intellectuelle ou donnée au Parti communiste chinois. C'est pourquoi, en août, le secrétaire d'État Pompeo a lancé le Clean Network, l'effort du département d'État pour protéger la vie privée, la propriété intellectuelle et la sécurité nationale contre les intrusions agressives d'acteurs malveillants comme le Parti communiste chinois. Le Clean Network est une approche globale pour faire face aux menaces à long terme, aux données relatives à la vie privée, à la sécurité, aux droits de l'homme et à la collaboration de confiance, a déclaré le sous-secrétaire Krash. Elle est enracinée dans d'énormes fiducies numériques acceptées à l'échelle internationale et elle représente l'exécution d'une stratégie pluriannuelle et durable fondée sur une coalition croissante de plus de 49 pays propres, de 170 compagnies de télécommunications propres et d'entreprises de premier plan dans le monde entier. Nous tous, gouvernement, entreprise, société civile, et je pense surtout à la presse, pouvons continuer à inverser la tendance contre l'autoritarisme au profit de la liberté et de la sécurité. Il n'y a pas de prospérité durable sans liberté.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.